Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Nous sommes en direct de Pierre Vert pour les nuits photographiques, une émission proposée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous l'avez dit, nous sommes en direct des nuits photographiques de Pierre Vert, où comme chaque année, nous plantons notre curiosité et nos micros pour une rencontre sur l'image sans image. C'est la 14e édition de ce festival unique dans les Alpes du Sud et comme toujours, pour m'accompagner dans cet exercice radiophonique très plaisant, j'accueille le président des nuits, Stéphane Kosman. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous, bonjour François et bienvenue à nouveau.
Et on est parti pour une heure d'émission, hein, tu le sais. Au sommaire de cette émission, nous entendrons de jeunes photographes aux talents déjà bien trempés. Victorine Alice, Paloma Naudet et Arthur Mercier seront nos invités. De même que Florence Dibon, une photographe originaire de Pierre Vert et qui a été à la création de l'Étoffe des Nuits, autrement dit le Festival Off des Nuits. Et puis nous traverserons l'océan en recevant Greg Hatton, photographe américain et lauréat du prix du jury des Nuits de Selma en Alabama, petite sœur des Nuits de Pierre Vert. Nous ferons aussi un saut dans le passé en évoquant avec Aline Muller les clichés d'Edgar Imbert, officier colonial et photographe au Tonkin et à Madagascar au tout début du XXe siècle. Et bien sûr, après la guitare d'Hank Marvin et les Shadows que vous avez reconnus et qui a introduit ce programme, nous parlerons des années 60 avec Jean-Marie Perrier qui a immortalisé les yéyés de cette époque particulière. Bonne émission. Et on démarre tout de suite avec Stéphane. Stéphane, nous sommes au cœur du festival et dans un village viticole. L'édition 2022 est un bon cru.
Un excellent cru. Nous avons le plaisir d'avoir reçu Jean-Marie Perrier. J'étais extrêmement étonné par la deuxième partie de son travail, puisque nous, on était restés sur les yéyés, comme tu dis. Et puis, on a découvert à la projection toutes ces images de mode, où il a photographié absolument tout le monde. On voit Carla Bruni très jeune, avec Yves Saint-Laurent, c'était magnifique.
On parlera tout à l'heure et on entendra évidemment Jean-Marie Perrier, qui n'a pas pu être des nôtres puisqu'il est déjà parti, il a quitté Pierre Vert, mais il a laissé une empreinte très importante ici même à Pierre Vert. Et je vous le disais, donc tout à l'heure, on aura son interview. Tu le sais aussi, Stéphane, j'aime découvrir des talents et inviter des jeunes photographes. Cette année encore, ils sont nombreux ici. Et certains ont accepté de parler de leur démarche sur ce plateau. C'est le cas de Victorine Alice et Paloma Naudet. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai souhaité vous réunir pour cette interview car vos propositions parlent d'exclusion et de repli sur soi. Paloma, votre exposition No Man's Land, ce sont des murs dressés entre les hommes et les pays que vous montrez crûment. Alors que Victorine dénonce des murs invisibles à Paris entre des individus qui se croisent et s'ignorent. On va commencer par vous, Paloma. Paloma Naudet, pourquoi ce choix des murs et des barbelés ?
En fait, il faut savoir qu'à Calais, il y a à peu près 65 km de murs et de barbelés. Donc, c'est des dispositifs qui sont payés, financés par l'Angleterre, suite aux accords du Touquet, pour empêcher l'immigration illégale à Calais. Et donc j'ai choisi de parler de ces dispositifs parce que pour moi c'était une manière de parler de la situation en changeant un peu d'iconographie de ce qu'on voit habituellement en fait des images.
Alors c'est terrible parce qu'il y a des murs, il y a des renforcements, enfin il y a des barbelés, c'est extraordinaire. On se sent qu'on est vraiment dans une dynamique de rejet.
Oui, tout à fait. En fait, là, on est vraiment sur des dispositifs qui sont mis en place contre, sans penser en fait à une solution derrière. Donc, c'est des dispositifs qui coûtent extrêmement cher, et en fait, il n'y a pas de solution qui est proposée pour les personnes qui vivent à Calais dans des conditions extrêmement difficiles. Et en fait, il faut savoir que tous ces dispositifs, c'est ce qui a poussé en fait ces dernières années, c'est à peu près ces deux dernières années, à ce qu'il y ait autant d'exilés qui partent en bateau traverser la Manche, donc ce qui est extrêmement dangereux et il y a énormément de drames qui ont suivi ces départs en bateau. Et en fait, c'est vraiment la cause de ces départs et en fait ces dispositifs, parce que c'est devenu tellement difficile de traverser que voilà, les gens sont ici et ils veulent passer quoi qu'il en coûte.
Alors, ce sont des situations inhumaines, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a personne sur vos photos, pas un être humain. C'est le titre, d'ailleurs, de votre exposition.
Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment un choix. C'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, qu'il n'y ait pas d'humain dans ces dispositifs, dans ces photos, en fait. Et c'était vraiment pour en fait rappeler l'inhumanité de ces dispositifs et qu'en fait c'est une volonté. Enfin, No Man's Land, c'était à la fois l'envie que de l'Amérique, enfin des politiques, qu'il n'y ait personne ici, donc pas d'humains ici, et en même temps sur les photos, qu'il n'y ait pas de présence humaine aussi. Donc voilà, c'était vraiment un choix qui était important pour moi.
Alors vous le savez, on est dans un festival de la photo, donc on va vous poser des questions techniques aussi. Dans votre travail, Paloma, il y a une bonne définition sur vos images. Quel appareil et quelle technique utilisez-vous ?
Alors j'utilise un Fuji X-T2 et un X-T3. Et je shoot tout au 35 mm, donc sur une focale fixe, sans trépied. Il n'y a rien de particulier, mais à part en fait que j'ai vraiment cherché à ce qu'il y ait des ambiances et des atmosphères. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur chaque lieu pour essayer de réfléchir à quel moment de la journée ou quel climat je voulais shooter en fait ce mur-là, pour que ça ait un lien aussi avec l'histoire et avec ce que je voulais raconter. Donc c'était vraiment je suis retournée beaucoup beaucoup de fois sur chaque mur que j'ai photographié, énormément de fois, jusqu'à avoir vraiment l'image que j'avais vraiment en tête, quoi.
Avec des symboles comme par exemple un drapeau français derrière un mur avec des barbelés, comme aussi des tentes qui sont alignées sous un mur où on ne voit personne. On devine que les gens sont soit partis, soit à l'intérieur. Donc c'est une exposition qu'il faut voir. C'est à la rue de la Frache, à Pierrevert, bien sûr. Merci beaucoup, Paloma. Vous restez avec nous parce que à vos côtés, il y a Victorine Alice qui elle a proposé Au Grand Air. Bonjour, Victorine.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors, au Grand Air, c'est un témoignage du quotidien au passage Simone de Beauvoir. C'est à quel endroit ce passage ?
Alors, en fait, c'est à Paris.
Oui. Et
je tiens à préciser que c'est un travail à quatre mains que j'ai réalisé avec J.S. Saya, qui malheureusement n'a pas pu venir. J.S. en fait vivait dans le bois de Vincennes, donc qui n'avait pas de toit. Et en fait, l'idée le début de ce travail, c'était vraiment une rencontre dans le cadre d'une association qui s'appelle La Cloche. Et depuis quelque temps, je réfléchissais à comment témoigner de ces personnes qui vivent des situations difficiles en vivant à la rue. Et je me suis dit, mais en tant que photographe, en fait, qui n'a pas connu la rue, comment est-ce qu'on pourrait travailler ? Et en fait, JS, il m'a dit, écoute, moi, j'ai vraiment envie, je suis passionnée par la photographie, et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, suis-moi dans les lieux là où j'ai vécu, donc notamment au parc de Bercy, même s'il est arrivé après au bois de Vincennes. Et le pont Simone de Beauvoir, c'est l'une des premières photos prises par JS. Et il précise un lieu dortoir entre la Seine et le périphérique. Et il a écrit ça parce que ça fait partie de notre démarche. On a écrit sur nos tirages, enfin sur nos photographies.
En plus, c'est sous le signe du castor, c'est assez étonnant quand même, donc avec Simone de Beauvoir. Mais bon, vous avez, Victorine, photographié donc la vie entre des passants et puis le sans domicile fixe, des gens qui se voient, qui se croisent, mais qui ne se connaissent pas et qui ne se fréquentent absolument pas, qui s'ignorent.
Mais c'est vrai que je vivais à Vincennes à l'époque, donc on était voisins avec JS. Et donc je m'entendais très bien aussi avec son voisin, Sa Majesté, qui apparaît dans la série. Et c'est vrai que quand j'allais les voir au bois, à chaque fois c'était très surprenant de voir les passants ils passaient vraiment à 2 mètres, il n'y avait aucun échange. Enfin vraiment, il y avait comme une invisibilité. Enfin, ils étaient invisibles entre guillemets. Et c'est vrai qu'un soir, alors que je marchais avec JS. Et j'ai vu des cyclistes passer en vélo et ils étaient côte à côte comme sur ce même chemin avec des réalités complètement autres. Et je me suis dit, en fait, il suffirait peut-être d'un petit café de temps en temps ou des petites choses juste pour se dire, en fait, c'est pas juste parce qu'on vit sous une tente, c'est pas... Je veux dire, en général, le monde de la rue, il est connoté de manière très dramatique. Et en fait, c'est des personnes comme vous et moi C'est juste qu'ils vivent différemment et voilà.
L'exposition de Victorine, c'est au Grand Air. Tout à l'heure, vous avez votre vernissage qui a lieu, c'est à la ferme Sainte-Marguerite, c'est ça ?
Oui.
C'est un grand moment pour un photographe, un vernissage.
Oui, après c'est un peu triste parce que c'est la première fois que J.S. Saya n'est pas là et c'est vraiment notre travail à tous les deux. Donc, mais bon, c'est déjà super et... Et merci pour l'invitation.
Ben, c'est bien. Et puis je serai tout à l'heure au vernissage également, parce que j'aime bien rendre les invitations aussi. Vous êtes toutes les deux, mesdames, dans des collectifs d'artistes. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi ?
Alors, en fait, on est dans un collectif qui s'appelle le collectif Hors Format. Donc, c'est un collectif qu'on a co-créé avec six personnes. Actuellement, on est 8. Et donc, on est tous photographes documentaires et l'idée de ce collectif, c'est vraiment de pouvoir s'entraider sur des choses aussi très très pragmatiques, les editings, comment on fait, est-ce que tu as le contact de telle ou telle personne, enfin des choses comme ça, et en même temps aussi de créer des projets communs. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur.
Victorine,
je dirais qu'on est avant tout aussi amis et je trouve que c'est hyper important parce que voilà, être photographe, c'est un métier assez solitaire où on est un peu tout le temps avec soi-même. Et le fait de pouvoir se confier, d'expliquer aussi nos interrogations dans notre propre vie, sur nos déplacements incessants, sur... je pense que les liens sont hyper importants, aussi bien entre nous qu'avec les personnes avec qui on travaille dans nos reportages.
On va écouter tout à l'heure Arthur Mercier, qui également est dans un collectif. Stéphane, ce sont des jeunes femmes qui sont très prometteuses en termes de photos et de talent, d'expression.
Très, très, très bon choix, François. Moi, c'est vraiment les deux expositions m'ont bouleversé. Et en plus, avec une scénographie de Marie Corr, vraiment, on a des deux côtés un très, très beau travail, monté en qualité, et j'ai été mais scotché par ce qui se passe à Calais. Ça m'a vraiment remué. Quoi.
Très bien, c'est pour ça que je voulais les inviter ici même, tu t'en es rendu compte. Je te propose d'écouter un partenaire fidèle du festival qui, aux côtés des collectivités territoriales, soutient les nuits depuis le début. Il s'agit du Crédit Agricole, une banque dans l'action culturelle. C'est bizarre. Olivier Girard préside la caisse locale de Manosque et il est présent tous les ans sur le festival. Il précise son attachement dans cette courte interview et on se retrouve tout de suite après. Olivier Girard, le Crédit Agricole soutient les nuits de Pierre Vert. Pour quelle raison ?
Les nuits de Pierre Vert font partie comme de beaucoup d'associations ou autres qu'on aide sur le territoire. Font partie d'une association qui joue le jeu du partenariat que l'on voulait, c'est-à-dire que le Crédit Agricole n'est pas philanthrope, le Crédit Agricole aussi cherche aussi des partenaires, cherche aussi des clients. Et aujourd'hui, l'association de nuits photographiques joue énormément le jeu et se développe de plus en plus. C'est ce qui nous fait plaisir en plus, cette association, c'est que c'est une exposition gratuite, une association gratuite, et qu'en plus les gens accueillent les bénévoles et les photographes gratuitement. Et c'est vrai que c'est ce qui permet que derrière, ça soit une association qui perdure. Et puis, Stéphane Crossman, le président, est quelqu'un à qui on ne peut rien refuser, mais qui joue très bien le jeu avec Claude Bouliou et François-Xavier Emery et toute l'équipe, entre autres. Et donc, c'est vrai que depuis 14 ans, nous le suivons chaque année. Et c'est qu'un plaisir partagé, puisque, en fait, c'est de plus en plus de belles choses. Et en plus, c'est de plus en plus de parrains de qualité. Même si tous les parrains, depuis 14 ans, sont de qualité. Mais c'est vrai qu'il y a une montée en gamme qui nous fait plaisir aussi.
C'est une aide économique, sociale, territoriale et culturelle.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et qu'on recherche. Et on voit aujourd'hui le nombre de gens qui sont là ce soir et il y a de plus en plus de gens et donc c'est un festival qui marche de mieux en mieux et nous sommes contents d'être partenaires de cette association.
Le Crédit Agricole qui est partenaire des nuits photographiques de Pierre Vert, je le rappelle, depuis le début est un partenaire important, un partenaire privé. Donc un autre photographe est à nos côtés et je l'accueille évidemment, Arthur Mercier. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Il va évoquer Icare. Icar, c'est le nom du travail qui sera projeté ce soir au parc André Turcan. Et avant de parler d'Icar, penchons-nous sur le parcours d'Arthur, parce que Arthur, vous n'êtes pas simplement et seulement photographe.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai une double activité. Je suis autant photographe que cadreur, un peu chef-op aussi, et je réalise mes propres films. Et la photographie, j'ai commencé il y a 3 ans, justement, parce que j'avais envie d'une activité plus solitaire et j'avais envie de pouvoir aussi faire mes propres projets, de manière plus autonome qu'avec une équipe de tournage où on est nombreux, on est dépendants les uns des autres et j'avais besoin de retourner à un travail plus seul.
Je traduis en français chef op, ça veut dire chef opérateur.
Hein, ouais, tout c'est à ça. Fait.
Arthur, donc vous avez une triple casquette en quelque sorte, le spectacle vivant, si j'ai bien compris, et surtout donc l'image qui bouge ou qui ne bouge pas.
Ouais, tout à fait.
C'est difficile de faire des choix entre les trois.
Bah, pas tant que ça, non, c'est pas dur. Il faut toujours se poser la question de quelle manière vais-je le mieux pouvoir raconter une histoire. Parfois, il faut que les images bougent, parfois, il faut qu'elles soient immobiles. Parfois, il faut les deux. Et c'est une des particularités du travail sur Icare, c'est que c'est un travail que j'ai fabriqué en deux volets. Un volet film, cinéma direct, le son, le geste, la parole, le témoignage. Et ensuite, des photos qui sont beaucoup plus oniriques et qui vont s'attacher à plutôt rendre la magie et la mythologie d'Icare.
Alors justement, Icare, ça n'est pas un personnage, c'est une personne.
Ouais, c'est vrai, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais je crois qu'il est aussi important, parfois, pour trouver la distance, raconter une histoire et donner à voir plus d'invisible, d'imaginer aussi le personnage et de le construire avec la personne. Icare, on a fait ensemble. De quelle manière est-ce que c'était bien de construire certaines images et parfois d'aller saisir des moments plus vrais, plus directs. Et je crois que cette idée de personnage, moi, elle me plaît beaucoup et j'ai tendance à aimer, entre guillemets, élever la personne dans certaines images.
Alors, comment vit Icare ?
Icare, il vit difficilement. Icare, il travaille d'arrache-pied, c'est vraiment un forçat. Il est paysan, il se le dit paysan, il se dira jamais agriculteur. Il est boulanger, il fait certainement le meilleur pain du Sud-Ouest. Il est aussi maraîcher, il élève aussi des bêtes. Et il a cette tradition paysanne de ne pas passer par la banque, de ne dépenser que l'argent qu'il gagne, de ne pas dépendre des autres. Et c'est difficile en 2022 de réussir à vivre comme ça. Et pour survivre, c'est peut-être pour ça qu'il a créé son personnage de chevalier, qu'il a tendance à énormément nourrir son imaginaire et qui va voilà, s'élever lui-même.
Vous dites chevalier, moi je pense à Don Quichotte par exemple.
Alors parfois c'est ça. Parfois on est sur une figure encore plus noble parce que Icare peut sauver des gens et pas uniquement se battre contre des moulins à vent. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible qui va réussir justement à donner beaucoup. Peut-être que c'est pas si vain son combat.
La projection d'Icare c'est ce soir, Arthur ?
Ouais, tout à fait, c'est à 22h.
À 22h, donc, vous aurez le vol d'Icare particulier. Évidemment, il ne vole pas du verbe voler dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Et c'est un personnage, une personne plutôt, je disais tout à l'heure, très attachante. Et c'est vraiment un bon travail que de pénétrer dans l'intimité de cette personne. Et bravo pour le travail que vous faites aussi avec cette ouverture qui est la vôtre, Arthur.
Merci beaucoup.
Merci à ce soir pour la projection. Donc, à nos côtés, un autre invité qui vient d'arriver. Il vient de Los Angeles, donc on excuse, il vient d'arriver à peine. Et il a été primé lors des Nuits de Selma, c'est Greg Hatton. Bonjour Greg.
Bonjour.
Hello. Il est également en plateau, et Stéphane qui va s'acquitter de la traduction de ce que je dis.
Je vais essayer.
Oui. Greg, que pensez-vous de l'accueil de Pierre Vert, pardon?
The welcome in Pierre Vert is beautiful. You know, it's a beautiful place to begin with, but there's beautiful people as well, and it's always fun to see people speaking about photography. So it's good.
Donc il a trouvé l'accueil formidable et que les gens sont très très sympas et que c'est aussi très très bien de... I don't remember now.
C'est très bien, c'est bien, point.
C'est bien de voir des gens qui parlent de la photographie.
Voilà, ce sont des rencontres professionnelles, hein, c'est bien ça.
It's very professional. Yeah, I mean it's very professional, but it's very welcoming.
Voilà, c'est très professionnel et la bienvenue, quoi, surtout.
Quel est le travail de Greg Hatton de manière régulière?
Alors, Greg...
Yeah, I'm a documentary photographer and a cinematographer. So I film movies and I do documentary photography, yeah.
Voilà, la photographie documentaire et aussi il fait des films, il réalise des films documentaires aussi.
Ce soir, il y a une projection du travail de Greg Hatton, c'est bien ça?
Oui, Greg est projeté ce soir en deuxième partie, puisqu'il est le lauréat du jury à Selma, donc l'autre festival qui est en rapport avec Pierre Vert et Sawira. Et donc, il nous propose son travail en deuxième partie de projection.
Alors, autre chose aussi, Greg, vous êtes ambassadeur pour la marque prestigieuse Leica. C'est un plus pour vous?
Yes, working with Leica is very good because Leica is about photography. And other than a lot of different brands that I spoke with, our conversations generally are about photography.
Ok. Il dit que Leica, c'est vraiment la photographie. Et qu'il avait déjà discuté avec d'autres marques et c'était pas ce qui lui convenait vraiment, en tout cas.
Alors, votre concitoyen, et qu'on connaît bien et qu'on apprécie ici même, Frank Jackson, a déclaré hier soir qu'il reviendrait tous les ans à Pierre Vert. Et vous?
Frank said last night that he was going to come back every year. Would you come back every year here?
Absolutely, yes.
Absolument. C'est bien, on va devenir une colonie de Selma, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Greg, d'avoir été parmi nous.
Thank you very much.
Merci beaucoup.
Have a good time here.
Of course, yes. Thank you.
Merci. Et bien maintenant, on va écouter le parrain de cette édition et qui a fait hier une visite bondée et appréciée de son exposition consacrée aux années 60. Il n'a pas pu être des nôtres, mais nous allons entendre l'interview que Jean-Marie Perrier m'a accordée. Photographe doué et chanceux, très jeune, il a été plongé dans le monde de la chanson et de la musique. Il a pu faire des clichés qui, aujourd'hui, seraient impossibles. Mick Jagger et les Stones dans la rue, Antoine dans un fauteuil dans la circulation des Champs-Élysées, Françoise Hardy dans des tenues Paco Rabanne, Johnny, Sylvie, Dutron et plein d'autres, sans oublier la photo du siècle. J'évoque ce temps, mais aussi les années 90 avec Jean-Marie Perrier, qui avait aussi le talent de mettre en scène ses photos. Il s'en explique et on se retrouve tout de suite après. Jean-Marie Perrier, en regardant vos années 60 à la Fondation Carzou, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est celui de liberté.
Bah oui, forcément, puisque d'abord j'avais la chance d'avoir eu Daniel Filipacchi, qui fait ce journal qui est le premier en Europe du genre. Et en plus, comme j'avais été son assistant dans les années 50, il me dit « bon, ben, tu t'en occupes ». Il m'a filé le journal et j'ai choisi d'autres photographes. J'avais une liberté absolument totale. Et en plus, les artistes, si vous voulez, moi j'avais 22 ans, eux, ils avaient entre 17 et 20. Bon, ben, c'était l'histoire de gamin, quoi. Donc, il n'y avait aucun problème. Aucun. Oui, c'était la totale liberté qui n'existe absolument plus aujourd'hui, bien sûr. De toute façon, mais même la photographie, hein, pour être photographe. Le métier de photographe aujourd'hui, c'est très très compliqué.
Et cette histoire de la photographie du siècle?
Oh ben celle-là, je l'ai racontée mille fois, mais c'est pas compliqué. Je crois que c'est pour le numéro 5, je crois, la cinquième année, l'anniversaire du journal. On les a appelés pendant 15 jours avant. On leur a dit, bon, vous êtes là tel jour. Il y a 4 Johnny, on avait envoyé un avion parce qu'il était en tournée très loin. Et puis voilà, les autres sont arrivés. Ils se connaissaient tous, c'était très gai parce qu'il n'y avait pas d'animosité ni de jalousie particulière. Mais moi, j'avais pensé que c'était mieux que Johnny soit au-dessus parce que c'est par lui que ça a commencé tout ça. J'avais ma petite idée, j'avais laissé traîner l'échelle là. Et puis quand je les ai tous bien installés, j'ai dit à Johnny au dernier moment, tiens, sois gentil, mais monte d'un cran parce que je ne te vois pas très bien. Et puis voilà, la blague est faite. Et en fait, une fois que ça a été dans le journal, personne n'en a discuté, c'était évident que c'était lui, de toute façon. Et au fond, je ne me suis pas gouré quand même, parce que...
Oui, c'est le seul qui est debout. Hein.
Ouais.
Alors, Jean-Marie Perrier, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a un personnage important dans votre vie professionnelle, c'est Daniel Filipacchi.
Ah oui, bah, c'est un mec extraordinaire. En plus de ça, vous vous rendez compte, moi j'avais 16 ans et j'en faisais 11 en 56. Mais vraiment, j'étais un bébé. Lui, il était photographe à Marie-Claire et il faisait son émission à Europe, sur le jazz. Un ami journaliste me le présente, en me disant, voilà, est-ce que tu... Il lui en avait parlé. Et Filipacchi, il m'a dit, ça a pris même pas une minute, quoi. Il m'a dit, bon, d'accord, alors demain, tu viens au studio Marie-Claire à telle heure, voilà. Et puis après, il m'a filé un appareil, un Leica, il m'a dit, bah, tiens, tu vas aller en tournée pour mon journal Jazz Magazine. Comme je connaissais Filipacchi, tous les musiciens m'acceptaient. Donc c'était ça qui était fou, parce que quand j'étais entouré sur le tarmac de Nice là, pour Juan les Pins, pour le festival de Juan les Pins, il y avait plein de photographes. Et moi j'étais là avec tout petit, avec mon Leica. Les mecs se disaient, mais c'est, qu'est-ce qu'il fout là, le môme, là? Puis les musiciens, ils descendaient, ils me sautaient dans les bras, parce que c'est Philippe Aki qui leur avait dit, mon assistant est là, pour faire des photos de vous, voilà. C'était formidable.
Alors justement, sur cette exposition, mais aussi sur toutes vos photos qui sont très connues des années 60, il y a assez peu de photos sur scène. Pourquoi ?
Parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'était de faire des photos mises en scène, justement. Ce n'est pas du tout la vérité. C'est des photos que j'ai imaginées avant. Et donc, c'est pour ça que, d'abord, c'est pour ça que j'ai fait très peu de photos, parce que moi, ça allait très vite, hein. Comme c'était prêt dans la tête... J'avais organisé le décor, tout, boum, il s'installait, clic-clac, et hop, c'était fini. Ça prenait 3 minutes. Hein.
Techniquement, vous travaillez avec quel appareil à
tous,
ce moment-là?
Non, tous. C'est pas compliqué, j'ai eu tout ce qui existe depuis 1962. J'ai commencé par Leica et après tout, alors les Rolleiflex. Flex. Non, j'ai commencé par un Rolleiflex d'ailleurs. Leica, Canon, Nikon, tout, les chambres, les Hasselblad, tout, parce que... Je trouve qu'un nouvel appareil, ça donne des envies et des idées de photos. Parce que c'est quand même très différent à chaque fois. Oui, ça donne vraiment des envies de photos. Merci, monsieur.
Vous êtes présent aux Nuits photographiques de Pierre Vert. Vous êtes le parrain de l'édition 2022. Comment vous avez trouvé les jeunes photographes qui n'utilisent pas tous les appareils que vous venez de citer ?
Non, mais de toute façon, comment vous dire ? C'est terrible pour eux parce que le métier de photographe tel que je l'ai connu, il n'existe plus de toute façon. C'est fini. Il n'y a plus de journaux, ils n'ont plus un rond. Et puis moi, en plus, c'était très exceptionnel puisque grâce à Philippe Aki, j'avais tout pouvoir et aucune limite de moyens, que ce soit avec Salut les copains ou avec elle. Donc ça, il y a 10 photographes dans le monde qui ont eu cette chance-là. Mais quand je vois des mômes démarrer aujourd'hui, alors comme tout le monde fait des photos avec les iPhones et qu'en plus les iPhones marchent très bien, ça fait des photos extraordinaires. Faites une photo dans une rue de nuit, votre photo elle est meilleure que ce que vous voyez, donc c'est terrible. Donc je leur dis toujours, si prends un appareil qui puisse aussi faire du film, parce qu'il y a plus d'avenir immédiat pour gagner sa vie dans l'image qui bouge. Hein.
Hier soir, Stéphane Kosman vous a fait une surprise en projetant des photos des années 90, et notamment c'était les créateurs de mode qu'on a vus. Ça aussi c'est une période de votre vie.
Oui, j'ai fait de la photo 2 fois 10 ans. Parce que les gens, ils me parlent comme un photographe, mais je ne suis pas photographe. Moi, j'ai changé de métier tous les 10 ans. Après, j'ai fait du cinéma, j'ai fait 4 longs métrages. En plus, après, j'ai fait de la publicité. J'ai fait 600 films publicitaires. J'ai vécu en Amérique 10 ans pour ça. Ensuite, je suis revenu à la photo grâce à ma sœur Anne-Marie, qui dirigeait elle. Et quand elle s'est mariée avec Michel Sardou, boum, j'ai arrêté la photo à nouveau. Et j'en fais plus. Je veux dire, après, j'ai commencé à écrire des livres. Tu vois, j'ai toujours fait des choses dans l'autodidacte. Et maintenant, je fais un spectacle sur scène. Alors, je n'ai jamais rien appris, en réalité, je n'ai jamais fait d'école. Alors, c'est peut-être ça la chance aussi. Parce qu'au fond, j'ai appris en faisant. Voilà, j'ai pris un appareil, une caméra. Et voilà, c'est ça, c'est ma chance.
Et qu'est-ce que vous apprenez lorsque vous commentez vos photos devant une centaine de personnes, comme ici à Manosque ?
Non, j'apprends pas grand-chose, parce que je pourrais leur en dire beaucoup plus. Mais en réalité, si vous voulez, je préfère faire le spectacle. Parce que, au moins, là, le spectacle, il dure 1h45. Il y a les photos que j'ai mis derrière en mesure sur des musiques. Puis j'ai un prompteur, donc j'oublie rien. Tandis que là, bon, c'est improvisé, c'est un peu frustrant. Et puis en plus, là, comme il n'y avait pas de micro, c'est très compliqué à expliquer à toute une foule de gens qui ne peuvent même pas voir les photos parce qu'ils ne sont pas à côté. Donc c'était assez compliqué.
Avec également un mélange de générations, des gens qui ont connu cette époque, ouais, qui vont suivi Salut les copains et autres, mais aussi des jeunes qui disent, mais c'est nos parents, ça.
Oui, mais c'est ça qui est très étrange, c'est qu'en fait, je crois que c'est peut-être unique dans le monde de la photographie, cette histoire-là, parce que aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette exposition dans les EHPAD, là, tu vois, qui est une exposition qui sera permanente. C'est-à-dire qu'il y a 41 tirages, entre 1 mètre et 1 mètre 30, qui vont être sur leur mur. Ce sera de la déco. Je dis, vous les gardez 10 ans, vous les gardez, ça m'est égal. Je vous les donne. Il faut juste faire les tirages. Ça, je ne peux pas tout faire. Mais c'est pareil, parce que quand je réalise que là, dans les EHPAD, par exemple, les gens, ils ont entre 90 et 100 ans. Ils connaissent ces photos, même s'ils n'aimaient pas les chanteurs, d'ailleurs. Mais ils les voyaient dans les chambres de leurs mômes. Ils ne pouvaient pas y échapper. Le mouvement de Salut les copains et des années 60 était partout. Donc, eux savent qui c'est. Leurs enfants, ils ont 50 ans. Eux, c'est leur adolescence. Et les enfants des enfants, ben, j'en vois plein qui ont 25 ans, moi, dans les expositions. Et c'est ce que je disais à la petite tout à l'heure. Parce qu'en réalité, une môme de 25 ans qui connaît les chansons des Beatles par cœur, comme celle que j'ai rencontrée tout à l'heure, c'est comme si moi, j'avais écouté Miss Tinguette, leur apportant. Or, j'écoutais pas Mistinguette. Donc, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de la photo qu'il y a 3 ou 4 générations qui sont directement impliquées au présent par ces photos-là. Les photos d'anciennes, de temps anciens, on en voit tout le temps. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Or là, il y a 4 générations au moins qui ont tous quelque chose à dire dessus, parce que ça, c'est ou les photos de mon fils ou les photos de mon père. Donc c'est extraordinaire.
Ça veut dire aussi que la photographie, c'est l'histoire, tout simplement.
Oui, mais alors là, j'ai pas du tout cette prétention. Parce qu'en plus, les photos des années 60, ça ne représente pas les années 60, ça représente les rêves des années 60, des mômes des années 60. Parce que la réalité, j'ai jamais fait de photos réelles, moi, ça ne m'intéresse pas en plus. Moi, ce que je fais, c'est du spectacle. Parce que tout ça, c'était fait pour être sur les murs des mômes, pour décorer leur chambre, pour les faire rêver. Donc c'était du spectacle, donc c'est que des mensonges. La réalité, je m'en fous. Il y a des mecs qui font ça très très bien, il y a des grands photographes qui montrent la réalité. Dieu sait s'ils vont loin d'ailleurs, hein. Moi, je ne sais pas le faire. En plus, je ne peux pas faire de photos. Je ne peux pas prendre quelqu'un dans la rue sans lui dire. Moi, c'est tout mis en scène, toujours. Donc, l'histoire, non. En tout cas, ça ne représente pas les années 60. Ça représente les rêves des mômes des années 60.
Jean-Marie Perrier, c'était hier à Manosque. Et Jean-Marie Perrier n'a pas pu être des nôtres pour cette émission. C'est bien dommage, mais en tout cas, il s'est rattrapé avec cette interview. Stéphane est un président qui a été extrêmement disponible pour le festival.
Pas un président, un invité d'honneur, un parrain.
Ah pardon, je t'ai vincé de ta fonction extraordinaire. Tu m'as viré.
Non, pas de problème. Et comme on dit dans l'équipe, il a fait le job.
Ouais.
Il a été extrêmement disponible et puis surtout il se prend pas au sérieux. Voilà. Quand il m'a vu avec ma feuille pour remercier tous les sponsors, il m'a dit mais non, on va le faire ensemble, ça va être plus rigolo. Tu vois. Le gars est super.
On peut dire aussi quelque part qu'à l'image de Peter Knapp par exemple, la photo ça conserve.
Ah, on était étonnés. 82 ans, le type il est en place.
Ouais.
Il est en place.
Ouais. Ben c'est bien, et puis il a apprécié, je suppose, aussi l'accueil. En tout cas, hier, il était ravi de faire le tour et puis de parler, de donner quelques anecdotes sur Claude François, Françoise Hardy, Mick Jagger, les Beatles, etc.
Ben, tu sais, c'est toujours pareil. Ils arrivent ici, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer, et puis l'accueil est tellement sympathique qu'ils ont envie de rester. Alors, ils programment de venir 24 heures ou peut-être 48 heures, mais après, finalement, ils partent, ils disent « je serais bien resté un petit peu plus longtemps ».
Il y en a certains qui reviennent d'ailleurs. Ça, c'est bien aussi. Ah, oui. On verra si Jean-Marie Perrier revient.
L'année prochaine, 15 ans.
En tout cas, oui, en tout cas, il a marqué le public ici même et nous-mêmes. Prochaine invitée sur notre plateau, elle est à tes côtés, Stéphane. Et je suis ravi d'accueillir une photographe originaire de Pierrevert. Bonjour, Florence Dibon.
Bonjour François.
On se connaît depuis fort longtemps, alors ne vous étonnez pas si jamais un tutoiement nous échappe. Vos photos, j'arrive pas, non, tes photos Florence, oui. Être une femme phénix ont été projetées hier soir. Beaucoup d'émotions pour toi qui est à la création avec d'autres du off du festival.
Oui,
le in et le off le même soir.
Le in et le off, enfin reliés. Non, c'est très beau. Alors après, d'autant plus que moi, j'ai connu les nues photos au tout début, dès la première édition, et que j'ai vu toute l'évolution. Ça m'a donné envie de faire de la photo, de progresser. Et là, d'être projeté, c'est carrément un grand honneur, un aboutissement quoi, de mon travail, peut-être. Quoi.
Et j'ai entendu dans le public des applaudissements nourris, notamment de toute l'équipe de l'étoffe des nuits,
ouais.
Évidemment.
Parce que ce qu'ont vu la projection, c'est quand même un travail de binôme. Hein. Avant tout, c'était vraiment une aventure humaine qu'on a fait sur un an. On a commencé, on ne savait pas où on allait. Hein.
Alors on va en parler justement, hein, tu t'en doutes. La femme phénix, c'est Tatiana.
C'est ça.
Magnifique modèle au corps meurtri. Et tu parles dans tes photos de photothérapie.
Oui, parce qu'au départ, le but du jeu, j'avais fait une formation de photothérapie qui m'a transcendé il y a un an. Je suis rentré en disant je serai photothérapeute. Ça, vraiment, j'avais trouvé. Et donc, dans le off, je travaillais avec Tatiana et j'ai proposé ce travail. J'ai dit moi, je vais m'exercer en photothérapie et toi, tu vas pouvoir exprimer ton corps et passer au-dessus de tes blessures. C'est un peu ce qu'on s'est dit au départ. Et après, donc, on a profité de Pierre Vert, c'est tout pris autour de Pierre Vert, au Zouk notamment. Et petit à petit, on a créé une complicité et on a abouti à ce travail. Donc, qui est vraiment un travail à deux, quoi. Sans Tatiana, il n'y aurait pas de photos.
Alors, on pourrait dire que c'est un travail qui est esthétique, mais en même temps social, médical.
Oui, et puis thérapeutique, parce que ça raconte une histoire, celle de Tatiana. Mais ça, au-delà de ça, ça raconte l'histoire de toutes les femmes blessées et qui se relèvent, beaucoup plus vaillantes. Moi, travailler avec Tatiana, ça m'a fait grandir, hein, c'est sûr. Hein. Et ça m'a donné une légitimité que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'à l'issue, j'ai dit « Allez-y, je me lance et je propose ma série
». Qu'est-ce qu'elle a pensé de ce travail, enfin de cette complicité qui est née? Parce qu'elle se dévoile, elle se découvre, elle se dénude. Oui.
Hier, on a assisté à la naissance du phénix. C'était ça le but, c'est que si elle arrivait à se regarder sur grand écran et que les photos soient projetées, ben c'était gagné. Elle avait dépassé toutes ses blessures. Donc je pense qu'on a réussi le challenge, c'est d'autant plus intéressant.
Tu vas continuer la photo ?
Ah ben oui, carrément.
C'est une bonne chose. Et puis, je suppose aussi que pour toi, mais tu l'as dit hier soir, c'est une reconnaissance du IN que de t'inviter. Et donc, tu l'as pris vraiment comme
un cadeau.
Plaisir, exactement.
Et puis, je remercie vraiment les équipes et du IN et du OFF, bienveillantes et tout. C'est vraiment toujours un plaisir. Et puis là, cette semaine, j'ai profité à 100%, je me suis régalé. Bon Stéphane. Festival, bravo Stéphane.
Quelques mots sur Florence, que tu connais aussi depuis fort longtemps.
Écoute, Florence, je l'ai accueillie chez moi à New York avec son fils. Ça a été une première étape. C'était génial. Enfin, je ne les ai pas vus, en fait. Hein. Ils partaient le matin. Et puis, ils ont fait des photos. On les a projetées, d'ailleurs, les photos de Robin. Et je pense que ça a mis une petite graine quelque part. Et voilà, c'est vrai que nous, on est très fiers de ça, qu'il y ait un IN et qu'il y ait une personne de Pierre Vert qui deviennent photographes. C'était aussi la volonté avec François-Xavier et moi, quand on a commencé les premières années, on a été intervenus dans les écoles, les maternelles, les primaires, on a même eu des ados en difficulté. Bon, là, on a une jeune adulte hein, qui est maintenant dans le IN, et puis surtout le OFF, nous aussi, on est très contents, parce que le fait d'avoir un OFF, ça veut dire que c'est sérieux, quoi. Le village de Pierre Vert devient un village photographique.
Tu parlais des animations scolaires que vous faisiez à une époque avec tes collègues ici même à Pierre Vert. Je me souviens avoir reçu un jeune Robin de Pierre Vert dans une émission, dans un plateau comme celui-ci.
Tout à fait.
C'était un bon souvenir pour moi, Florence. Donc,
donc moi, c'est 10 ans après mon fils. Il avait 11 ans à l'époque, je crois. Non, c'était déjà super, ouais, vraiment.
C'est bien. Donc, merci encore d'avoir participé
à cette
émission. Et puis, continue bien.
Quoi. Bon festival à tout le monde, en tout cas. Profitez encore des projections et des expositions.
Merci Florence. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Aline Muller. Bonjour Aline.
Bonjour.
Et vous êtes là à propos de l'expo visible qui est à la Voûte des Arts, Edgar Imbert, officier colonial et photographe 1900-1914. C'est une plongée visuelle étonnante au début du XXe siècle, au Tonkin et à Madagascar, et qui fait partie de l'histoire de ces territoires comme de la France. Qui était d'abord Edgar Imbert ?
Alors Edgar Imbert était un photographe, mais aussi militaire, qui est parti donc aux colonies, à Madagascar et en Indochine française, au Tonkin, donc l'actuel Vietnam. Et donc c'était à la fois un militaire, mais aussi un véritable technicien de la photographie, parce qu'il a écrit des livres, des articles, etc. Et il donne des conseils, en fait, aux autres photographes. Et à l'exposition, justement, vous verrez son livre qui est exposé, qui s'appelle « La photographie en France et dans les pays chauds ».
Voilà, c'est un livre technique.
C'est un livre technique, mais qui est agrémenté de beaucoup de ses images. Et puis, on sent qu'il y a aussi un peu un regard d'anthropologue, parce qu'il commente vraiment les scènes et il s'intéresse à la population. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mes recherches, dans mon mémoire. C'est qu'il est photographe, qu'il est militaire et qu'il s'intéresse vraiment aux populations locales aussi.
Alors, vous êtes vous-même historienne en photographie. Vous travaillez dans le nord de la France, me semble-t-il.
Alors, je travaille au département des Hauts-de-Seine, donc à Boulogne-Billancourt, c'est juste à côté de Paris. Et c'est au musée départemental Albert Kahn. Ce
n'est pas tout à fait le nord, mais pour nous, c'est le nord,
c'est
vous
le nord
savez.
Pour
hein.
vous.
Au-dessus d'Avignon, c'est le
c'est
nord.
Sûr.
Hein. Et donc, vous avez été fascinée par ce personnage étonnant, quand même, d'Edgar Humbert.
Alors, forcément, quand on travaille un an et demi sur quelqu'un, on découvre de fascination. Et après, bon, j'essaye quand même toujours d'avoir une certaine distance avec cette histoire coloniale qui est ce qu'elle est. Donc, voilà, c'est s'appuyer sur les sources aussi pour garder cette rigueur scientifique qui est essentielle en histoire.
Alors, il faut l'accepter, cette histoire coloniale. Hein. Bien sûr, on est 100 ans après, on a commencé à accepter certaines choses. C'est plus difficile avec l'Afrique, d'ailleurs. Mais bon, on va y arriver, j'espère. On sent que la photo, c'était un outil de propagande pour l'armée française.
Je pense qu'à l'époque d'Edgar Humbert, on ne peut pas encore parler tout à fait de propagande parce que ce n'était pas instauré comme ça. Il est photographe, mais pas au service photographique des armées. Qui sera créé qu'en 1915, lors de la Première Guerre mondiale. Donc, il travaille, bien sûr, en lien avec l'administration coloniale, mais pas directement sous ses ordres. Donc, on ne peut pas encore vraiment parler de propagande. Elle sera vraiment créée en 1915.
Et 1915, malheureusement, c'est la mort d'Edgar Humbert au front.
Au front,
parce que, comme beaucoup de militaires... Il est mort au front et dans les premières années de cette guerre terrible, de cette boucherie énorme. Qu'est-ce qui vous attire sur cette... Surtout notamment, enfin moi, mais je vais me dévoiler après, sur les compositions des photos et les sujets développés par Edgar Humbert.
Alors on sent qu'il y a vraiment une recherche artistique et esthétique. Et d'ailleurs, quand on compare avec ce qui est écrit dans son livre, c'est flagrant. Il y a une recherche qui est proche de l'histoire de l'art. Parce que moi, j'ai fait en fait aussi de l'histoire de l'art. Donc, il y a vraiment une construction comme un tableau avec différents plans et aussi des scènes qui sont vraiment posées avec des modèles, etc. Donc, on sent qu'il y a vraiment une recherche esthétique et même des expérimentations proches du mouvement pictorialiste. Donc voilà, c'était vraiment un technicien aussi.
Alors il photographie son épouse à Hanoï, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et puis en même temps, il photographie aussi son commandant, son colonel, etc. etc. Côté un peu flagorneur.
Alors c'est compliqué aussi de réduire, c'est quand même une production qui est énorme. Parce que c'est un fonds qui compte 14 000 pièces. Donc c'est à la fois Edgar, mais aussi son frère Jules. Et donc il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités. Il y a de la photographie documentaire, il y a de la photographie anthropologique. Il y a bien sûr de la photographie qui est proche de l'administration coloniale et aussi des expérimentations artistiques. Donc c'est très très vaste. C'est complexe de réduire à l'un ou l'autre sujet. Enfin,
ou à l'un ou l'autre des frères. Et justement,
voilà.
Jules Humbert... Alors, il y a un lien avec Pierre Vert, hein, vous le savez.
Oui.
Jules Humbert a été, dans les années 50, secrétaire de mairie, ici même à Pierre Vert. Il a fait énormément de photos qui sont dans les archives maintenant du village et en même temps qui ont été exposées l'année dernière aussi à la Voûte des Arts. Et je salue Emmanuel Geoffrin qui est dans le public. Et c'est en même temps un patrimoine extrêmement important. Et Jules Humbert a aussi photographié les colonies. À l'époque, c'était l'Algérie et la Tunisie.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est intéressant de savoir que ces deux frères sont partis aux colonies, ont tous les deux pratiqué la photographie. On ne sait pas vraiment comment ils se sont formés, d'ailleurs. Comme Edgar était l'aîné, je suppose qu'il a un peu formé son frère Jules. Mais oui, c'est vraiment intéressant de voir le lien avec le village de Pierre Vert, qui aujourd'hui est aussi sur la photographie. Donc, c'est comme je le disais hier pendant la conférence, c'est un peu la boucle qui est bouclée. La famille qui revient dans son village et qui est encore exposée, donc c'est super.
Alors, je ne sais pas si Edgar a connu Pierre Vert, mais en tout cas, Jules, très certainement, et en profondeur, puisque le rôle d'un secrétaire de mairie, hein, dans ces cas-là, c'est extrêmement important, dans des villages de cette importance. c'est aussi la récupération de ce fonds. Vous avez parlé de 14 000 clichés, alors sous plaques de verre, ce sont des gommes bichromatées, enfin des choses très très différentes et un petit peu dépassées, on va dire ça comme ça, mais qui sont ô combien poétiques pour l'œil du 21e siècle, pour nous, et qui ont été récupérées à Saint-Tulle dans des conditions presque rocambolesques.
Alors oui, moi, on m'a raconté l'histoire. En fait, c'était encore aux mains de la famille. Et donc, c'est le CPAD, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est au Fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine, qui a acheté en fait cet ensemble énorme à la famille et qui le conserve aujourd'hui donc, au Fort d'Ivry et qui le met à disposition des chercheurs et des intéressés. Donc si vous allez sur le site d'Images Défense, vous pourrez voir les images de Jules et d'Edgar.
Vous l'avez dit, 14 000 documents, et tout ça, ça fait 2 tonnes à charrier entre Saint-Tulle-Pierre-Vert et puis bien sûr après Paris pour le CPAD, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est de la plaque de verre, alors forcément ça pèse son petit poids. Et puis ils avaient une production très prolifique, les deux. Donc énormément de plaques de verre, des albums, des tirages, des plaques de projection. Enfin, c'est une grosse production.
Vous qui avez passé une belle année plongée dans tous ces documents, quel regard vous avez porté sur l'exposition qui est à la voûte des arts, qui est présentée de manière très, très uniforme et en même temps très professionnelle?
Ben moi, j'ai été ravie de voir ça, parce que c'est vrai que quand on fait des recherches, on est plongé dans des archives, dans des réserves, etc. Et de pouvoir voir vraiment, d'échanger avec le public, et puis d'échanger, bien sûr, avec Emmanuel et Anne-Marie sur Edgar, de voir vivre aussi un fond, c'est passionnant, et c'est pour ça qu'on choisit de faire ça dans la vie.
Je me tourne vers Stéphane. On ne pourrait pas créer un prix, le prix, je ne sais pas, posthume pour Edgar Imbert ou Jules Imbert, je ne sais pas. Enfin,
pourquoi
c'est une
pas.
Idée que je lance comme ça.
Pourquoi
parce que
pas,
je trouve
pourquoi
que c'est,
pas. Déjà, lui rendre hommage, c'est un peu aussi une volonté du festival. Ouais. Chaque année, on rend hommage à quelqu'un qui nous a quittés ou qui a disparu ou qu'on n'a pas connu. Mais c'est une très bonne idée. On va creuser.
Ouais, on va voir. Tu parles des gens qui sont passés ici et qui ont laissé une trace indélébile. Je pense notamment à Sabine Weiss qui nous a quittés.
Il y a l'épouse de Bernard Plossu. Françoise Nunez qui nous a quittés aussi récemment. Je pense à Steve Ayotte qui était notre troisième parrain. Voilà, il y a des. Et puis bon, bah, je pense aussi à ma petite cousine hein, qui nous a quittés au mois de février, qui était là à l'accueil. Non, c'est.
Et voilà. Qu'on a vu danser sous la pluie, dans scène magnifique et qui restera dans nos têtes aussi.
Ouais, voilà, c'est un immense souvenir. Donc, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas un prix, oui.
On arrive à la fin de cette émission. Aline, j'ai été ravie de vous recevoir. Vous avez d'autres recherches historiques comme ça ou d'autres pépites à faire découvrir au public?
Alors, moi, je travaille du coup au musée Albert Kahn et c'est vrai que la collection est magnifique. Et on a déjà pu un petit peu échanger sur les potentiels sur cette collection. Puisque c'est de la plaque de verre, ils organisaient déjà à l'époque des séances de projection, donc on va réfléchir à tout ça.
Vous avez un cliché particulier qui vous a frappé? Moi j'en ai un, mais je le dirai après.
Dans l'exposition?
Oui.
Moi, une des images que j'aime beaucoup... et qui en même temps représente vraiment l'histoire coloniale, c'est ces femmes qui sont transportées en chaise à porteurs sur les plages. C'est le contraste qui est frappant entre les populations locales qui sont soumises à l'autorité coloniale et ces femmes qui sont habillées dans une tenue très très élégante. Donc je trouve que c'est assez, assez fort comme image.
Et 4 porteurs pour une femme,
c'est
chaque
ça.
Fois.
Et des femmes qui portent des femmes.
Oui, c'est ça, c'est étonnant. Moi, celle qui m'a frappé, c'est une photo d'une cascade magnifique. C'était évidemment au Tonkin. Dans cette cascade, tout d'un coup, on regarde, on a deux personnages qui sont devant et qui sont les supérieurs hiérarchiques d'Edgar. Je suppose qu'il a fait ça aussi pour ça. Je parlais de Flag Warner tout à l'heure. Simplement pour se faire bien voir de la hiérarchie, non ? Enfin, c'est pas impossible.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça, hein, parce que à droite sur cette image, c'est Hubert Lyautey, donc qui est un grand personnage de l'histoire coloniale et qui à ce moment-là est le supérieur direct d'Edgar Imbert. Donc, ce portrait n'est pas anodin et en fait, il en fait beaucoup de lui pendant cette période. Donc, quelque chose très lié à la hiérarchie, c'est sûr.
Et puis c'est un temps révolu, évidemment, celui des colonies, surtout dans ces endroits. Mais vous avez, avec votre époux, vous êtes allé à Hanoï pour essayer de retrouver les vestiges de cette architecture coloniale très particulière en Asie du Sud-Est. Et vous avez fait quelques découvertes relativement intéressantes, mais bien sûr, beaucoup de choses ont changé, notamment la mobilité du peuple.
Alors oui, en 2018, on est parti avec mon compagnon à Hanoï et on avait vraiment fait toute une petite recherche au préalable avec de la cartographie, etc., pour retrouver les différents monuments qui étaient facilement identifiables. Et ça nous a permis effectivement de constater comment l'architecture avait évolué ou pas et comment elle était maintenant imprégnée dans le tissu urbain. Et donc, on a vu effectivement les modes de transport qui étaient complètement différents, bien sûr. Et comment l'architecture avait été avalée quelque part. Enfin, c'était passionnant. Et puis d'échanger aussi avec les populations locales, savoir ce qu'ils avaient, comment ils vivaient avec cette mémoire.
Faire le lien entre deux siècles, en C'est quelque ça. Sorte. Mmh. Merci beaucoup, Aline, d'avoir été mon invitée. Et puis surtout de nous avoir éclairé sur ce parcours incroyable d'Edgar Imbert, qui était photographe bénévole, en fait, dans l'armée. Hein. Ce n'était pas tout à fait son rôle. Lui, il était là pour pacifier les populations indigènes. C'est comme ça qu'on disait. Hein.
Alors oui, c'est ça.
Occasionnellement, il faisait de la photo et la photo reste.
Je pense qu'il s'ennuyait quand même dans les colonies. Donc, quelque part, il fallait trouver un passe-temps. Et c'était la photographie. Et pour d'autres, c'était le dessin. Voilà.
Merci beaucoup encore d'avoir été notre invité, puis d'avoir évoqué ce personnage, aussi bien Edgar que Jules Imbert, sur notre antenne. Stéphane, on arrive à la fin de notre émission. Quelques mots de conclusion rapide ?
Rapidement, il y a aussi les stages qui démarrent. On a notre ami Frank Jackson, qui était donc le parrain de Selma l'an dernier, propose un stage le 4 et 5 août ici à Pierrevert. Et nos amis Christophe Chevalier, Gilles Delorme et moi-même proposons dans la foulée le 6 et le 7, le week-end prochain, donc aussi à Pierrevert.
Ce sont des stages qui s'adressent à des débutants, des personnes confirmées
C'est un peu à la carte. C'est en fonction de la personne et son niveau, on s'adapte.
Et pour Franck, il n'est pas nécessaire de parler anglais, mais par contre, vous devez parler photo. Hein.
On parlera photo et je serai là en tant qu'assistant pour traduire et donner un coup de main.
Éventuellement. Donc c'est une bonne chose et puis c'est un personnage étonnant, Frank Jackson. Les rendez-vous d'aujourd'hui, tout à l'heure, dans quelques minutes.
Louai Baraka à la chapelle de Montfuron avec un pique-nique. Et puis ce soir, c'est le vernissage de notre ami qui est là, Victorine.
Oui.
Voilà. Moi, je ne t'entends pas, mais ce n'est pas grave. Mais c'est à la ferme
Sainte-Marguerite.
Sainte-Marguerite, voilà.
Et puis, tu as oublié une chose importante aussi. C'est la rencontre Louai Barakat Chris Huy en ce qui concerne les terres de conflit sur notre pauvre petite planète.
Tout à fait.
Comment les photographes rendent compte de ce qui se passe aussi bien en Ukraine qu'au Mozambique, en Syrie, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir et entendre et écouter de ces deux photoreporteurs de guerre, tous les deux. Et c'est tout à l'heure à 16h ici même. Merci encore Stéphane, merci à tous les invités qui ont été présents sur ce plateau. Et puis merci aussi à mon équipe à côté qui assure, comme chaque année, avec beaucoup, beaucoup de brio et beaucoup de patience, Olivier à la régie, également Manu à la liaison Internet et Louis à l'assistance à côté. Merci à tous les trois. C'est une émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site Fréquence Mistral avec des photos. Alors là, il y aura des images, notamment des photos de Jean-Marie Perrier et probablement aussi Anne Parillaud. Tiens, on n'a pas parlé d'Anne Parillaud.
Anne est en train de signer ses livres à la Fondation Carzou. C'est en ce moment même.
Vous connaissez tous Anne Parillaud, hein, si je vous dis Nikita, Luc Besson, vous savez. Et hier, elle est toujours d'ailleurs la présidente du jury.
Elle sera présente demain pour remettre le jury.
J'ai essayé de la faire parler hier. Elle m'a dit « Ah non, 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 on ne peut pas parler, présidente du jury. » Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit d'autres choses à côté et vous aurez bientôt cette interview sur notre site internet. Merci encore à tous. Bonne journée et surtout bon festival. On se retrouve dans à peu près une demi-heure à la chapelle de Montfuron pour tout simplement le vernissage de l'Ouai Barakat de retour d'Ukraine. À bientôt.